Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire, une série qui est consacrée aux grands hommes et aux grandes femmes qui ont marqué le Québec dans toutes les sphères de l'activité humaine. Alors ce soir, il sera question de Samuel de Champlain et des grands explorateurs de l'Amérique française. Samuel de Champlain serait né protestant à La Rochelle en 1574. Il grandit par la suite à Brouage, un petit village de la Saintonge en France, et il est mort à Québec le 25 décembre 1635, date tout indiquée pour cet homme très pieux. C'est un homme vraiment d'exception. Il aurait traversé au moins 27 fois l'Atlantique. On lui doit aussi une carte du Québec, probablement la première carte du Québec, qui est d'une précision à couper le souffle, quand on tient compte des techniques de l'époque. Il a aussi décrit, dans de nombreux récits de voyage, les richesses, les incroyables richesses de notre pays, mais aussi les mœurs et coutumes de ses premiers habitants, les Amérindiens, qu'il a beaucoup côtoyés, avec qui il a beaucoup travaillé. Il était aussi une sorte d'anthropologue. Aujourd'hui, nous parlerons surtout du Champlain explorateur. On aurait pu aborder sa vie de toutes sortes de facettes, mais nous allons parler du Champlain explorateur que nous retrouvons à Tadoussac, en 1603, que nous retrouvons évidemment à Québec, hein, fondateur de Québec en 1608, mais aussi que nous retrouvons en Huronie en 1615, un récit de voyage d'ailleurs que je vous invite à lire, son voyage en Huronie, qui est absolument captivant et fascinant. Alors, pour nous parler de ce personnage hors du commun et des autres explorateurs de l'Amérique française, nous avons invité non seulement un grand spécialiste, mais un invité de marque. C'est un grand pédagogue que nous avons invité ce soir. Un grand pédagogue qui a commencé sa carrière comme professeur d'histoire dans l'une des défuntes écoles normales du Québec. Il a ensuite été fonctionnaire au ministère de l'Éducation durant les années 60, des années d'effervescence, des années durant lesquelles il était chargé donc des programmes d'histoire. Il a par la suite fondé deux maisons d'édition. Il est toujours très actif aux éditions du Septentrion, comme vous le savez tous et toutes. Et il a été ministre, c'est pas rien, il a fait de la politique, il a été ministre des Affaires culturelles sous le gouvernement Lévesque à la fin des années 70. Mais nous le recevons surtout, et vous l'avez deviné, comme un historien, un grand historien de la Nouvelle-France. Il a publié de nombreux ouvrages, chapitres de livres, et son œuvre reçoit depuis quelques années de nombreuses distinctions, la dernière et non la moindre étant un doctorat honoris causa de l'Université Laval de Québec, où il vit toujours. Je vous prie d'accueillir chaleureusement M. Denis Vaugeois.
Bienvenue. Merci.
Alors, bienvenue aux figures marquantes de notre histoire. Il est question aujourd'hui donc des explorateurs de l'Amérique française. C'est un sujet que vous avez pas mal potassé au fil des années, notamment Champlain. Champlain, à qui vous avez consacré ce magnifique livre, publié conjointement avec Le Nouveau Monde, les éditions du Nouveau Monde. Champlain, la naissance de l'Amérique française. Et vous avez aussi publié, mais là, je pourrais en citer pendant, ça serait long, là, je prendrais la moitié de l'émission, mais on va s'en tenir à deux, La mesure d'un continent. D'où on sent que vous êtes complètement fasciné par ces explorateurs de la Nouvelle-France que vous étudiez depuis très longtemps. D'où vous vient cette fascination? Quel a été l'élément déclencheur?
Je connaissais la question et j'ai cherché la réponse. J'avais envie de répondre d'abord parce que je viens de Trois-Rivières et les plus grands explorateurs viennent de Trois-Rivières. On va en parler ce soir.
Oui, on voit tout de suite que vous n'êtes pas un homme chauvin. C'est ça.
Je dois être chauvin. L'air chauvin figure parmi les explorateurs. Non, je pense que c'est progressivement. Il y a peut-être un peu l'influence de Tessier, mais c'est un sujet qui, une fois que tu commences à t'intéresser à l'Amérique française, tu veux savoir comment elle s'est formée, comment elle est née, comment elle s'est développée. Et là, tu ne peux pas passer à côté des explorateurs. Et ce sont des géants. Je pense que c'est gros qu'il y a cette expression-là, chevauchée de géants. Et je pense que c'est juste. C'est des personnages fascinants. Donc, moi, ils m'ont fasciné. Puis, et là, quand j'ai connu le sujet de l'entretien de ce soir, j'étais très content et j'ai accepté sans hésiter. Mais après, j'ai commencé à craindre parce que le sujet est tellement vaste. que vous avez à peu près 1000 occasions ce soir de m'attraper.
Oui, mais ça ne sera pas le but. Alors, on a seulement 60 minutes.
C'est un marché conclu?
Ah, c'est un marché conclu, c'est un pacte. Tout de suite, on va essayer vraiment de faire un tour d'horizon en mettant un peu plus l'accent au départ sur Samuel de Champlain. Donc, commençons avec lui, Samuel de Champlain. Que sait-on au juste de ses origines? Puisqu'il y a un petit peu un mystère qui tourne autour de sa date de naissance, par exemple, mais aussi de sa religion, la religion de sa naissance. Qu'est-ce qu'on sait? Où est l'état de connaissance là-dessus?
Vous avez dit tout à l'heure dans la présentation, c'est un homme très religieux qui a choisi de mourir le 25 décembre.
Choisi, je ne sais pas.
Mais je ne suis pas sûr qu'il a été très religieux toute sa vie. Mais à la fin, il a été peut-être bien encadré par les jésuites, ce qui l'a aidé à intensifier ses sentiments religieux. Vous me demandez qu'est-ce qu'on sait des origines de Champlain, j'aurais envie de dire rien. Effectivement, on ne sait rien.
Il y a quand même ce... D'accord? Je pourrais vous dire broder un peu quand même, mais...
Il y a d'autres questions, soyez pas
inquiets. Oui, il y a d'autres questions, soyez pas inquiets. Donc, on ne sait rien, mais en même temps, il y a un baptistère qu'on aurait trouvé. Est-ce qu'il est fiable, qui date sa naissance? Parce qu'il y a eu une controverse en 2008, là. Vous savez qu'en 2008, on a dit, est-ce que Champlain, sur les origines, il y a eu un petit peu une controverse sur...
Les origines de Champlain lui-même, là?
Oui, oui.
Oui, bien oui, c'est pour ça. C'est comme on ne sait pas grand-chose, on peut se disputer. Ce fameux baptistère, en général, les généalogistes l'ont accepté comme une pièce authentique. Marcel Fournier, ici à Québec, qui est un leader dans le domaine de la généalogie, a souscrit puis a applaudi. Mais à côté de ça, Éric Thierry, qui est un spécialiste de Champlain, lui, il n'est pas encore certain. Et puis, entre les deux, je ne choisis pas.
Sauf que, comme il a le prénom Samuel,
oui.
Il paraît-il que les protestants avaient ce genre de nom de l'Ancien Testament, donc on peut penser qu'il était protestant.
Ça, oui, les juifs aussi. Alors, écoute, on va pas loin avec ça.
Ouais. Mais probablement qu'il n'était pas juif. Ça.
Bon, encore là, on avait beaucoup d'assurance. Hein?
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, écoutez.
Non, mais attends un peu. Dans le cas de Champlain, il reste qu'une des hésitations d'Éric Thierry, c'est sur le fait que dans le document, c'est Chapelot et ce n'est pas Champlain. Ça a son importance. Mais quand on fait de l'histoire comme on en fait, on est habitué à ça, hein? des noms de famille mal orthographiés, etc. Donc, je pense qu'il y a encore place pour de la recherche. Et le fait que ce soit dans un temple protestant, mais ça confirmerait qu'il est né protestant, ce qui ne m'étonne pas. Mais qu'il soit devenu catholique à un certain moment, parce que il y a en 1585, entre autres, il y a l'édit de Nemours qui va enlever tous les privilèges accordés aux protestants pour dire maintenant tout le monde est catholique. Bon, alors Champlain n'a pas échappé à cette vague-là. Mais pour lui, pendant plusieurs années, ce n'est pas important. Il est entouré d'ailleurs de protestants. Et il marie une femme qui est protestante.
Une chose qui est absolument fascinante dans le cas de Champlain, c'est qu'il est quand même, il évolue dans un milieu modeste, à Brouage, dans Saint-Onge, il évolue dans un milieu relativement modeste, mais il a accès très tôt et très rapidement à la cour d'Henri IV. Comment l'expliquer? Parce qu'il a un accès, même il va être pensionné assez rapidement au début du 17e siècle. Ce n'est pas tout le monde qui avait une pension comme ça. Comment expliquer cet accès privilégié?
La pension, elle peut s'expliquer par le fait que quand il est revenu de son voyage aux Indes, il a produit un document qui a dû faire grand plaisir au roi. À part de ça, il s'était battu pour la France. Et le roi récompense les gens qui ont été fidèles. Donc, il y avait plusieurs occasions de lui donner une pension. Mais vous avez raison de dire qu'il a accès au roi. Et ça fait partie des mystères de Champlain. Il est excellent cartographe, mais le roi ne peut pas le savoir encore. Il ne l'a pas vu à l'œuvre. Il a vraiment accès au roi, et ça, c'est un de mes sujets de dispute avec Éric Thierry, c'est que quand Champlain se fait proposer de venir en Amérique avec Aymar de Chastes, il va dire à Aymar de Chastes, oui, ça m'intéresse d'y aller, parce qu'Aymar de Chastes sait qu'il est allé déjà en Amérique, donc c'est son homme. Mais il dit, de par ma naissance et de par la pension qu'il me verse, il faut d'abord que j'en parle au roi. Alors, quand on dit de par ma naissance, et je vois que vous avez l'ouvrage de Fisher, bien, Fisher, lui, a fait l'hypothèse que Champlain aurait pu être un enfant naturel d'Henri IV.
Oui, en effet.
Et Éric Thierry proteste, il dit, c'est pas vrai, c'est pas possible, les bâtards du roi sont traités d'une autre façon. Ça restera un autre mystère. Mais c'est clair que ça serait plausible et ça expliquerait plein de choses.
Alors, un des voyages les plus importants, en tout cas, qu'on attribue à Champlain, c'est en Amérique du Sud, il aurait agi comme espion et ça aurait eu un rôle important par rapport à sa perception, selon Fisher, l'historien Fisher, son biographe, sa perception, disons, des Amérindiens.
Oui.
Est-ce qu'il paraîtrait, les spécialistes disent que c'est pas si sûr que ça qu'il y est vraiment allé. Est-ce qu'on a vraiment la certitude aujourd'hui qu'il a été en Amérique du Sud et quelle était sa mission?
Quand on a fait le premier livre que vous avez présenté là, oui, avec Raymond Italien, c'était une de nos grandes questions. On a engagé une spécialiste et c'est elle qui a eu les plus gros budgets d'ailleurs pour faire ses recherches. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui conteste ce voyage aux Indes occidentales. Alors, donc ça, c'est relativement admis. Dans le cas de Fisher, c'est très intéressant. Fisher, c'est un homme qui est gentil, qui est généreux, c'est un bon Américain qui regarde les gens avec un œil positif. Alors, nous, il nous regarde avec un œil admiratif. Il trouve que notre société est équilibrée, etc., puis il cherche des explications. Et notre façon de se comporter avec les Indiens, contrairement à l'image qu'on répand souvent, c'est l'image, c'est-à-dire la relation la plus positive qu'il y a eu
en Amérique.
Si on regarde les Espagnols, les Anglais, alors dans le cas des Français, c'était exceptionnel. Et là, Fisher, il dira, le fait d'être allé aux Antilles, d'avoir vu comment les Espagnols se comportaient avec les Indiens, Champlain dit, si je suis en situation, ça ne sera pas comme ça. C'est plausible.
C'est plausible,
hein? Oui, c'est plausible. Mais de toute façon, c'est le comportement de Champlain. Champlain est extrêmement positif, extrêmement ouvert avec les Autochtones. Il les connaît, il les nomme par leur nom. C'est le seul administrateur français qui en connaît autant. Et personnellement, il établit avec eux une relation personnelle. Il dit, j'ai rencontré ton père, je connaissais ton père, des choses comme ça. Et Champlain est très, très près d'eux. Et c'est ce qui explique, finalement, on va faire un raccourci là, ce soir, là. C'est ce qui explique l'Amérique française. Parce que s'il n'y avait pas eu ce comportement vis-à-vis des Indiens, il n'y aurait pas eu les alliances, puis il n'y aurait pas eu la suite.
Alors, il se retrouve... On saute des bouts, mais il se retrouve à Tadoussac,
oui,
en 1603. Parlez-nous de cette expédition qui est très importante. Pourquoi Tadoussac? Avec qui il est? Ils sont combien? Quel est le but de la mission? Quelles sont les conséquences?
J'aime bien en parler parce que ça permet de rétablir un certain nombre de choses. D'abord, avant, on ne parlait pas de 1603. Ça commençait en 1608. Bon. Alors, tout d'un coup, on a découvert qu'il y avait eu une rencontre en 1603, puis il y a des gens qui voudraient qu'il y en ait eu une en 1600 aussi, ce qui est réel, mais qui n'a pas vraiment eu de suite. En 1603, c'est Pont-Gravé. Pont-Gravé, ça fait depuis 1580 qu'il vient en Amérique, et il vient fois après fois. Et là, il y a donc une expédition en 1603 qui est assez importante, parce qu'il revient avec deux Indiens, et on veut amorcer quelque chose de plus permanent, un mar de chasse.
C'est ça, parce qu'il y a des Amérindiens qui parlent le français quand ils reviennent en
1603. Oui, qui ont séjourné là-bas. Mmh. Et Pont-Gravé, probablement lui-même, parle plusieurs langues indiennes. Donc, c'est sa mission à lui. Mais là, un mar de chasse qui va aller plus loin, il vient d'avoir le monopole de la traite, alors il va aller plus loin. Alors, il a demandé donc à Champlain de se joindre. Et de Chaste va miser beaucoup sur Champlain, mais il reste que l'homme clé, c'est Pont-Gravé. Et Champlain, donc, est un second, il prend des notes. Mais pendant que Pont-Gravé fait les affaires, la traite, etc., là, Champlain va demander aux Indiens de remonter le Saguenay. Et ça, c'est un élément très important pour moi. Parce qu'on ne sait pas grand-chose des origines de Champlain, j'insiste un peu là-dessus pour vous provoquer, mais on sait qu'il a beaucoup appris, qu'il sait beaucoup de choses. Et entre autres, qu'il s'est intéressé au voyage au nord. Puis on sait qu'il rêve de percer ce continent, comme tous les Européens, pour atteindre la Chine. Donc, il est au courant des voyages qui sont faits au nord. Là, il est à Tadoussac, il voit un puissant cours d'eau qui arrive du nord. Il dit aux Indiens, est-ce qu'on peut aller voir? Les Indiens remontent le Saguenay avec lui. Puis à un moment donné, il dit, bon, on ne va pas plus loin. Il dit, pourquoi on ne va pas plus loin? Ah, on est allé assez loin. Parce que les Indiens ont ce réflexe de ne pas montrer ce qu'il y a plus loin. Ils veulent toujours contrôler les passages. Donc, ils vont lui dire, il y a un grand lac. Puis après le grand lac, il y a d'autres rivières. Puis après ça, il y a de l'eau salée. Ah, Champlain, il devient malade. Il y a de l'eau salée. Hein? Pas parce qu'il y a de l'eau salée, mais ça veut dire quelque chose. Hein?
Ouais.
Donc, il revient. Et ça, tout de suite, je vais faire des raccourcis, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En 1609, il est à la hauteur de Trois-Rivières. Il voit le Saint-Maurice. Il dit aux Indiens, là, je vais aller vous aider à combattre les Iroquois. Mais il dit, est-ce qu'on peut s'entendre qu'on va explorer cette rivière-là? Jusqu'où ça va? Ah, ils ont dit, ça va très, très loin. Puis là encore, il lui parle d'une mer, l'eau salée. Puis alors, Champlain dit, on va y aller. Puis les Indiens, oui, puis il dit, on va pouvoir revenir par en haut du Saguenay. On sait que ça t'intéresse. Champlain dit, quand est-ce qu'on y va? Les Indiens disent, l'année prochaine. Et il y a une troisième fois, en 1613, là, Champlain a vu les cartes du voyage d'Hudson. Et là, il revient avec quelqu'un qui est supposé être allé à la baie du Tisson avec les Nipissing. Et là, quand il est chez les Nipissing avec son ami Vigneault, il dit à Tessouat, il dit, bon, vous savez pourquoi je suis venu? Vous avez amené Vigneault à la baie du Tisson. Moi aussi, je vais y aller. Vous allez m'amener là-bas. Tessouat, il dit, on se calme, là. T'es fatigué, Champlain. Va te reposer. Et le lendemain, il lui dit, non, on ne t'amènera pas à la baie du Tisson. Les Indiens, à trois reprises, vont lui bloquer l'accès à la baie du Tisson.
Votre hypothèse là-dessus?
Ah, bien, c'est qu'ils veulent garder le contrôle des contacts qu'ils ont avec les gens qui s'établissent au nord. Comme ils mettent toujours les Français en concurrence avec Albany, ils vont les mettre en concurrence avec la baie du Tisson.
Sautons
à... Excuse-moi, oui. À ce moment-là, Champlain va dire, bien, d'abord, on fonce au centre. Et là, il va diriger ses mouvements d'exploration vers le centre, au-delà des Grands Lacs.
Et là, mais justement, 1608, il faut quand même en parler, 1608, quand il y a eu les commémorations de 2008, on a mis en cause... la paternité de Champlain, on disait que ce n'était pas vraiment lui. Enfin, ça remontait à loin, ces querelles. Mais le point sur cette question-là, est-ce qu'on peut dire vraiment, sans se tromper, que Champlain est le fondateur de Québec en 1608?
Franchement.
Hein? Franchement. Expliquez-nous, là. On ne prend rien pour acquis.
On ne prend rien pour acquis. C'est un peu triste, cette histoire-là.
Oui.
Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui a dit c'est Anna Dabijou. Anna Dabijou, c'est l'Indien avec lequel Pontgravé a traité. Et c'est vrai que Pontgravé a dit, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous établir, vos fils et nos filles vont mettre au monde un nouveau peuple, etc. Donc, c'est vrai qu'Anna Dabijou a été associée à ce geste que Champlain va poser. Pontgravé, qui a choisi l'endroit qu'il avait montré à Champlain dans l'expédition qui fait en 1603, pourrait aussi être identifié. Henri IV, qui est le grand patron, aussi à ce compte-là. Et, mais c'est qu'on nous a proposé du Godemont. Du Godemont était venu dans le Saint-Laurent. En 1601 ou 1602, mais il n'avait pas voulu aller plus loin. Il ne s'est jamais rendu plus loin que le Saguenay. Mais on a voulu en faire le fondateur de Québec. Ça fait un drôle de fondateur, quelqu'un qui n'a pas voulu se rendre jusque-là. Mais c'est Clair-Lac qui finançait l'expédition. Mais là, il y a des gens, des chasses aux oreilles ce soir, je vous dirai pas comment il a financé l'expédition. Effectivement, il avait financé, il avait réussi à convaincre des gens de s'associer à lui. Mais comme on lui retire son monopole après l'année 1608, il fait tout pour essayer de le récupérer. Il ne le récupère pas. Vous savez ce qu'il fait? Il met en vente l'habitation de Champlain. Tu parles d'un fondateur. Il n'était pas très attaché à sa fondation. Hein? Donc, moi, vous, en histoire, je ne suis jamais tout à fait honnête. Hein?
Ouais. Dites pas ça à vos lecteurs, là.
Non, mais c'est la vérité.
Je comprends.
La vérité. J'ai toujours un petit parti pris. Et dans le cas du Dumont, je ne l'aime pas.
Oui. Alors, vous êtes un chaud partisan de Champlain.
Et je trouve regrettable, par exemple, qu'on ait réussi à lui faire édifier un monument à Québec, alors que Pontgravé n'en a pas.
Ouais.
Et Pontgravé a été avec Champlain depuis 1603 jusqu'à la capitulation de 1629. Pontgravé, c'est extraordinaire. À la capitulation de Québec en 1629, il est là avec son petit-fils. Il ne lâche pas. Il n'a jamais lâché Champlain. Et c'est l'homme clé. C'est le mentor de Champlain. On ne sait pas où Champlain a appris tout ce qu'il sait, mais c'est clair qu'il en a beaucoup appris avec Pontgravé.
Donc, Champlain, en 1609, on ne va pas en parler trop longtemps, mais il va quand même vers le lac qui va un jour porter son nom.
Oui.
Il va soutenir...
Alors, Champlain, il est extraordinaire.
Oui. Ah,
il dit, quel beau lac! Hein? Bon, on va l'appeler Champlain. Champlain, il est parfait.
Un homme modeste, hein?
Oui.
Et donc là, il va donc combattre les ennemis de ses alliés.
Oui. Hein? Encore là, il dit j'ai mis un peu de balles dans mon arquebuse, sur mon mousquet. Là, ils m'ont dit comment identifier les chefs là-bas. Alors, il dit quand ils s'avancent, là, il dit j'y vise, j'en tue deux et j'en blesse un d'un coup.
Vous ne croyez pas ça, vous?
J'ai demandé à des experts. Des admirateurs de Champlain. Ils m'ont dit, ça se peut.
Et vous les avez crus. Pourquoi j'attire votre attention, quand on parle de l'explorateur, il ne continue pas vers le sud. Parce que, justement, quand on vous lit, on comprend que c'est l'ouest qui l'intéresse, c'est le fameux passage. Donc, il ne poursuit pas vraiment vers le sud.
Non.
Ou très peu.
Non.
Et on le retrouve, quelques années plus tard, on fait un saut de puce, mais on le retrouve en Huronie.
Oui.
En 1615, parlez-nous de cette expédition. Il se retrouve là blessé, il écrit. Pourquoi, dans quel contexte il se retrouve là?
Elle est très importante parce que là, Ben d'abord, la première fois qu'il est allé, pas tout à fait à la Huronie, mais chez les Algonquins, avec Tessouat, ce que je racontais tout à l'heure, là, son idée, c'est d'aller à la baie du Tson, parce qu'il a vu les cartes d'Hudson, qu'il a piégé d'ailleurs pour corriger ses propres cartes. Mais après ça, là, il est retourné en France, il passe un hiver là-bas, une année, là, il revient avec les Récollets. Et les Récollets, les autres, là, c'est vraiment, ils sont ardents. Ils veulent aller convertir des Indiens. Mmh. Et puis, il y en a un qui a décidé, il a visé la Huronie, on s'en va là-bas. Champlain ne veut pas le laisser aller tout seul, puis en même temps, il se dit, c'est ma chance. C'est ma chance d'y aller avec lui, et puis d'explorer de ce côté-là. Ça va être son dernier grand mouvement d'exploration vers la Huronie. Et c'est tout un voyage, hein? Remonter l'Outaouais, se rendre à Nipissing, sortir dans la baie Georgienne, aller au fond de la baie Georgienne. Puis une fois rendu là, c'est que le but officiel, c'est d'aller à la guerre contre les Iroquois. C'est un autre combat qu'il va faire aux Iroquois. Et là, on dit aujourd'hui que c'est dans la région de Syracuse. Alors, c'est encore le fond de la baie Georgienne pour aller jusqu'à Syracuse. C'est encore là un gros déplacement. Mais là, Champlain le fait. Et c'est là qu'il va être blessé. Parce qu'il y a de la difficulté à discipliner les Indiens au combat.
Ce ne sera pas le dernier.
Ouais. Donc là, il va être blessé assez, pas gravement pour risquer sa vie, mais il ne peut pas marcher.
Il va être transporté par ses alliés.
Il est humilié. Là,
c'est très souffrant.
Il est très souffrant. Alors, quand il est chez les Indiens, là, il dit, bon, guérissez-moi au plus vite pour que je rentre à la maison. Et puis, l'autre, ils prennent leur temps. Là, tu vas être bien avec nous autres, on va passer l'hiver avec toi, puis etc. Mais il a exploré encore. Il n'a pas perdu son temps. Il a observé les Indiens, puis il a pris des notes. Et puis là, il sait même à quel degré de latitude. Il sait qu'il est à 44 degrés. Parce qu'il est vraiment, comme cartographe, pour lire la nature, Écoute, j'ai dit tout à l'heure, on ne sait rien de Champlain. Mais ce qu'on sait, c'est le résultat. C'est un homme exceptionnel qui sait tout faire, qui maîtrise tout ce qu'on peut maîtriser à l'époque. C'est vraiment, il est universel.
On parle d'un homme de la Renaissance dans ce sens-là, hein? Un homme qui possède la connaissance. Vous dites qu'à partir de 1618, de l'explorateur, il devient plus administrateur. Ouais. Comment expliquer ce changement de cap? Comment expliquer qu'il ne poursuit pas
C'est que c'est difficile. C'est difficile. Et, en Europe, entre autres, Richelieu se chicane avec la reine-mère. Il a perdu Henri IV. Henri IV, c'était un roi important pour lui. Il a essayé de se refaire des réseaux. Il passe son temps à changer de patron à Paris. Donc, ça va toujours rétablir les choses. Alors, là, il est aux prises avec des disputes en France. Et en plus, sur place, les compagnies se disputent. Il y a beaucoup de contrebande, finalement. Alors, il essaie de contrôler la situation. Il la contrôle difficilement, même à un moment donné. Il y a des gens d'une compagnie qui disent, écoute, Champlain, on t'a assez vu. On t'a assez vu, ça va être Pont-Gravé qui va devenir le patron ici. Pont-Gravé dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Moi, je ne veux pas prendre la fonction de Champlain. Et Champlain proteste et dit, Pont-Gravé, c'est mon ami, mais il ne sera pas mon patron. Et puis, cet homme-là, je le respecte infiniment, il pourrait être mon père. Ce qui donnait des indices à l'époque, parce qu'on ne savait pas quel était l'âge exactement. Maintenant, on a découvert, on ferait toujours beaucoup de découvertes en histoire. Donc là, on a découvert la naissance de Pont-Gravé. On sait qu'il avait à peu près 20 ans de plus que Champlain. Mais à ce moment-là, et encore aujourd'hui, on ne connaît pas l'âge exact de Champlain de façon sûre, si on réfère à la question du départ. Et donc, il y a de la difficulté avec ses compagnies. Voilà. Et il essaie de contrôler la situation. Tu disais tout à l'heure qu'il faisait venir des colons, mais c'est pas facile de faire venir des colons. Il n'en vient pas beaucoup. Il n'y en a pas qui viennent.
Non, exactement. C'est un défi constant. Et puis, on a l'impression que ces réseaux changent avec le temps. Et c'est très difficile. Quels sont ces liens durant les années 20, justement, avec, disons, les jésuites qui, peu à peu, vont avoir un rôle important, qui vont aller tranquillement s'installer dans les pays d'en haut?
Quand tu l'as formulé, j'ai eu peur un peu de la question. Qu'est-ce que je vais répondre à ça? Mais la réponse, elle vient de m'arriver. C'est que je ne pourrais pas répondre comme tu l'as posé la question, mais je peux dire ce que les jésuites vont emporter. Parce qu'à partir du moment où lui cesse ses explorations, les jésuites se mettent à en faire. Ils vont au-devant des Indiens. Et c'est eux qui vont nous faire connaître le début des Grands Lacs. Avec Jean Bourdon, il y en a un qui va faire une première esquisse des Grands Lacs. Donc, ça devient les pionniers de l'exploration, tout sous le couvert de l'apostolat.
Brébeuf,
par exemple.
Oui, bien sûr.
Jacques et les autres, c'est vraiment des champions, des surhommes, d'ailleurs, aussi. C'est des surhommes, hein? On regarde ça avec un petit peu de distance aujourd'hui, ces martyrs canadiens-là. Ouais. Mais quand on regarde leur vie, là, c'est exemplaire. Ouais. Exemplaire.
Et est-ce qu'on...
Ce sont des mystiques, hein?
Oui, absolument. Et donc, Champlain s'éteint en 1635.
Mais auparavant, avant de mourir, il y a un sursaut. Quand il revient après la prise de Québec, Québec est rendu, quand il revient, là, il faut qu'il reconstruise tout. Il repart à zéro. Mais il n'est pas découragé. Il repart. Il recommence. Et là, il apprend qu'un nommé Jean Nicolette, c'est un de ses truchements, il vient d'arriver avec des cargaisons de fourrure. Il va voir notre homme Nicolette. Il dit, écoute, on va régler un problème. Il dit, qu'est-ce qu'il y a après le lac supérieur? Parce que là, il commence à avoir une idée là, des grands lacs. Il dit, serais-tu d'accord pour aller voir? Et Nicolette doit être notre premier grand explorateur. Et quand je faisais allusion tout à l'heure à mes origines trifluviennes, c'est que Nicolette a marqué l'histoire de Trois-Rivières. Et comme c'était un des premiers à faire officiellement ces grands voyages-là, bien évidemment, ça va contaminer les gens de Trois-Rivières jusqu'à aujourd'hui.
Voilà, tout s'explique. Champlain, son legs, qu'est-ce qu'on lui doit aujourd'hui à Samuel de Champlain? Qu'est-ce que les gens aussi de l'époque lui doivent?
Je pense qu'il y avait, ben, il y a eu des ennemis, il y avait des rivaux, mais au total, je pense que c'est un homme qui était respecté. Et ce qu'on lui doit, c'est ce que j'ai dit au début, on lui doit d'exister. Tiens, on lui doit d'exister. Parce que s'il n'avait pas été là, le reste, je ne vois pas comment ça serait passé. Et donc, il est à l'origine des alliances franco-indiennes, il est à l'origine des grands mouvements d'expansion, il est à l'origine de la naissance de l'Amérique française, d'où nous sommes issus. Hein?
Donc, il mérite un pont.
Je l'avais dit publiquement, ça. Maurice Richard aussi en aurait mérité.
Bien sûr. Mais moi, d'ailleurs, j'ai été étonné par la réaction des Québécois.
Oui, absolument. Hein, c'est vraiment rassurant, en un sens. Hein?
Oui. Par la suite, les premiers coureurs des bois, on a l'impression, hein, spontanément, quand on regarde la Nouvelle-France, que les coureurs des bois, c'est dès le début, les premiers pionniers qui débarquent, tout ça. Mais vous dites dans un texte, c'est autour de 1649-1650 qu'apparaissent les premiers coureurs des bois. Et ça, c'est important pour la suite de l'histoire de nos grands explorateurs. Pourquoi cette date à peu près? Et pourquoi si tard?
Bien, on peut toujours penser que les truchements, comme Étienne Brûlé, Nicolas Godefroy et même Jean-Nicolette ensemble, c'est des coureurs des bois. Mais là où ça commence pour le vrai, c'est le jour où les fourrures n'arrivent pas par les Indiens. Et c'est-à-dire la Huronie a été détruite en 1649-1650, et là il y a un grand vide. Et là, c'est la panique, d'ailleurs, dans la colonie, parce que là, les fourrures n'arrivant pas, c'est la richesse. C'est avec ça qu'on finance l'entreprise. Marie d'Incarnation l'a dit, d'ailleurs, très clairement, et pourtant, c'est pas sa spécialité, mais elle se rend bien compte de ce que ça veut dire. Donc, à un moment donné, en 53, à peu près, toujours à Trois-Rivières, il y a des Indiens qui arrivent du Haut-Saint-Maurice avec de grosses cargaisons de fourrures. C'est qu'ils ont contourné. Ils sont passés par le chemin du Nord, parce qu'au sud, c'était bloqué par les Iroquois. L'Outaouais n'était pas accessible. Donc, ils sont arrivés par le nord. Et là, à Trois-Rivières, donc, des groseilliers, ils disent, sapristi, s'ils sont passés, on peut passer. Fait qu'il dit à un ami Eustache Lambert, et il dit, on y va. L'année prochaine, on part tous les deux. Et ils y vont. Ils reviennent au bout d'un an ou deux avec des, je pense, 60 canots d'Indiens, plein de fourrures, etc.
Ça, c'est en 1659.
Peut-être 59,
oui.
Merci.
Oui, avec son beau-frère, non?
Non, mais là peut-être qu'on en a sauté une. Là.
Non, mais c'est pas grave, mais avec son beau-frère, non?
C'est pas tout de suite.
Pas tout de suite.
Pas tout de suite. Alors, le beau-frère, justement, quand il veut arriver, son beau-frère, lui dit, il a tombé sur le filon. Fait qu'il lui dit, écoute, on est quand même beau-frère, toi et deux, hein?
La famille.
La famille. Puis le type en question, c'est Reddison. Et Reddison, il y en a vu d'autres. Comme Desgroseilliers avait été lui-même donné chez les Indiens. Il avait vécu chez les Indiens. Donc, il savait où il s'en allait en partant en expédition. Donc, Reddison, lui, a été prisonnier des Iroquois. Il s'est évadé, il a été repris, etc. Là, il a vraiment fait ses classes. Il part avec Desgroseilliers. Le gouverneur, il dit, ah bon, vous vous en allez là où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fourrure. Alors, il dit, j'ai quelqu'un qui va vous accompagner. L'hôtel va vous accompagner. Le gouverneur, il veut savoir où sont les talles. Hein? Alors Desgroseilliers et Reddison disent, bon. Alors, ils partent un peu en cachette. Ce qui fait que quand ils vont revenir, le gouverneur fait saisir les cargaisons de fourrure et met Desgroseilliers en prison. Et là, Reddison, il dit, ça va faire. Alors, l'étape suivante, ce qu'il dit, c'est comme ça qu'ils nous traitent, on va aller travailler directement avec des Anglais. Parce que pendant leur deuxième expédition, ils ont découvert la proximité de la baie du Son par rapport au centre du continent. Parce qu'il y a tout un réseau fluvial qui part de la baie du Son. Alors, ils se disent, là, il y a quelque chose à faire. Et là, ils vont mettre 10 ans avant de convaincre les Anglais de créer la Compagnie de la Baie du Son, mais c'est vraiment les fondateurs de la Compagnie de la Baie du Son. Alors, les Français sont vraiment tirés dans le pied cette fois-là.
Ce qui est drôle là, en disant cette histoire-là, quand on regarde, on a l'impression que c'est une querelle d'égo, mais qui va avoir un impact géopolitique, ouais, mais vraiment majeur. Absolument. Pour la Nouvelle-France.
Mais c'est toujours comme ça en histoire, hein? La petite mène à la grande.
Oui. Ben, dans ce cas-là, même, il y a eu un revirement, mais je pense qu'ils ont été, à un moment donné, réhabilités, mais ils sont encore...
Oui, là, on n'a pas le temps de raconter tout ce qui est ça, mais ce qui est la constante, c'est que finalement, Radisson va vraiment faire son lit. D'ailleurs, il va marier, à un moment donné, une fille ou petite fille des Kirk qui avait pris Québec en 1629. Comme quoi, tout se tient en histoire.
Oui, absolument. Alors, ça, c'est pour le Nord. Donc, on a ici deux grands explorateurs.
Mais là, on a une raison de plus. Là. Comme le Nord et les Anglais prennent pied grâce à Radisson et les Groseilliers, là, il faut donc encore aller davantage vers le centre, aller pousser encore. On cherche toujours la mer de l'Ouest, on cherche toujours l'accès au Pacifique. Donc, raison de plus, parce que là, au Nord, puis du côté d'Albany, New York, c'est pas contrôlé. Donc, la chance des Français, c'est de foncer vers le centre.
Oui, foncer vers le centre, sauf que ça nous amène plus vers le sud, parce que les grandes explorations qui vont débuter à partir des années 1670-1680, c'est beaucoup plus vers le sud, via le Mississippi. Alors, c'est ça qui est assez fascinant. On veut une route vers l'ouest, mais finalement, on va se retrouver dans le golfe du Mexique.
Oui, on retient là, qu'on est toujours devant l'inconnu, là, on ne le sait pas.
Oui. Hein?
Alors, quand on est rendu, mettons, au lac Michigan ou à la baie des Puants, comme on dit aujourd'hui, c'est Green Bay, alors là, on entend des récits. Les Indiens racontent des choses. Et puis, ils parlent d'un grand fleuve. Alors, où mène ce grand fleuve? Il n'est pas dit que le grand fleuve mène dans le golfe du Mexique. Non. Il pourrait mener ailleurs.
Si bien sûr.
Donc, il faut aller voir. Donc, et comme il y a un réseau, qui se développe avec la rivière des Renards, la rivière Wisconsin, etc. Il y a une route là qui mm-hmm. se dessine. Puis il y a des Indiens intéressants, les Illinois, par exemple, c'est des Indiens intéressants. Donc on se laisse un peu entraîner pour aller voir là. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas voir ailleurs. Mm-hmm. Mais là, il y a une étape. Là. On va aller voir là.
C'est
on va aller voir vers le sud.
Et les premiers qui vont voir, comme vous dites, c'est une équipe qui est devenue célèbre, c'est celle de Louis Joliet et du père Jacques Marquette.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on sait de ces expéditions?
On n'en sait pas assez, parce que, à mon avis, c'est une des plus importantes. Joliette avait pris des notes, le père Marquette avait pris des notes. D'abord, au début, c'est Joliette. Mais Joliette, il s'en va, Micheli-Mackinac, peut-être. Et puis là, il y a une lettre du chef de la communauté religieuse, là, le patron de Marquette. Et la lettre dit à Marquette, profitez-en donc pour aller voir vers de nouveaux Indiens à convertir. Donc, Marquette va faire équipe avec Joliette. Les deux, donc, sont sérieux, ils prennent des notes, ça se passe bien, les Indiens les accueillent bien, ils savent traiter avec les Indiens. Mais au retour, Marquette va perdre ses papiers, ça va disparaître dans un incendie. Et Joliette, lui, quand il revient, il est tellement excité, écoute, il a fait un grand voyage, écoute, il arrive à Montréal, il est dans les rapides de la Chine, il dit, je l'ai vu assez, là, moi, les rapides de la Chine, ça ne me dérange pas. Il fonce là-dedans, puis il verse, il vient tout près de se noyer, il y avait un petit Indien avec lui, l'Indien est noyé, il perd ses papiers. Donc, on a reconstitué, tant bien que mal, le récit de Joliette et Marquette, mais on a perdu des documents bien importants. Mais il reste que les découvreurs du Mississippi, pour moi, c'est eux.
C'est-à-dire que c'est vraiment les premiers... C'est les premiers qui vont montrer la route à un personnage que vous aimez moins.
C'est-à-dire que les premiers, en histoire, c'est toujours difficile, hein, les premiers. En tout cas, parmi les premiers, parce que ça s'est fait par étapes. Il y en a d'autres qui avaient tracé un peu le chemin. En tout cas, eux autres, ils l'ont utilisé jusqu'au pays des Arkansas. Et donc, c'est important. Alors là, vous voulez me mettre sur une piste d'un autre que j'aime pas.
Exactement,
là,
c'est ça. Mais qui est quand même assez fascinant, c'est le fameux Robert Cavalier de La Salle, qui, lui, va descendre le Mississippi... Et va arriver au golfe du Mexique en 1684.
Oui, bon.
Hein? Alors, ce personnage-là est un personnage vraiment hors du commun aussi. Vous trouvez qu'il est plus un héros de roman qu'un bon explorateur? Il ferait un bon héros de roman, mais un explorateur, dites-vous, raté. Ah,
comme héros de roman, un héros, c'est beaucoup dire comme personnage de roman. Héros, non.
Alors, expliquez-nous votre scepticisme.
Non, mais là, ça prendrait une émission juste
là-dessus. Non, vous avez le sens de la synthèse. Vous allez nous expliquer ça.
Ah oui?
Oui. J'ai lu les Boréal Express à 10 ans, là. J'ai lu ça.
Écoute, alors, la première fois, c'est vrai qu'il réussit à descendre le Mississippi jusqu'à l'embouchure. Donc là où Joliette et Marquette s'étaient arrêtés, oui. Alors qu'Anzard, ces autres vont ensemble jusqu'à l'embouchure. Là, il y a tout. Il y a un manteau écarlate, il y a la grosse mise en scène. Parce que c'est
mais parlez-nous de ses origines, oui, c'est ça. Oui,
c'est un homme. Un homme qui a été 10 ans à peu près en communauté, hein, chez les Jésuites. Il y a un frère qui est sulpicien. Bon, en tout cas, il se conduit comme un noble. Alors là-bas, c'est la grosse mise en scène. Et puis là, après ça, il rentre à Montréal pour aller chercher son prix. Puis là, il veut vraiment fonder une colonie. Alors là, il va finalement aller en France. Là, il veut du financement. Alors, il est un peu responsable de tout ce qui va suivre pour les erreurs qui vont suivre. C'est-à-dire qu'il semble bien qu'il a suggéré que le Mississippi coulait peut-être beaucoup plus à l'ouest qu'il ne coulait en réalité. Peut-être même dans le golfe de la Californie. Ça vaut la peine de mettre de l'argent là-dedans. Et quand il va s'y rendre par la mer, par le golfe du Mexique, il va lui-même s'induire en erreur avec les faux renseignements qu'il a donnés aux autres. Il est pris avec ça. Mais là, j'exagère un petit peu. Là.
Oui, mais
il reste qu'il se ramasse à 800 km de l'embouchure du Mississippi.
Oui,
excuse-moi,
oui, oui.
Comme découvreur, là, 800 km de l'embouchure du Mississippi, tu peux trouver mieux. Hein?
C'est pas un navigateur très aguerri. Mais juste pour comprendre, c'est-à-dire que là, il arrive au golfe du Mexique. Vous avez été trop vite, là.
On va résumer.
Non, mais c'est parce que vous avez été trop vite. Parce que là, il retourne en France.
Oui.
Là, il a quand même auréolé d'une certaine gloire.
Le roi va dire qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Le roi est pas.
Ben là, il a été vraiment dupé parce qu'il a donné beaucoup d'argent pour ensuite trouver l'embouchure du Mississippi, mais en passant par le sud. Non, mais faut vous compreniez. Alors, il avait descendu par le Mississippi. Là, on lui donne de l'argent pour retrouver l'embouchure du Mississippi, mais par le golfe du Mexique.
Ben, tu parles d'un découvreur. Tu sais, il savait pas où était l'embouchure, il la retrouvera jamais.
Ça vous impressionne pas, vous? Puis, il arrive avec tout un équipage, quand même. Mais...
Non, mais t'as l'air bien parti.
Non, mais c'est impressionnant. Ben, moi, il m'impressionne. Qu'est-ce que vous voulez? C'est plus fort que moi. Mais ça m'impressionne, en fait, qu'il ait convaincu le roi de le financer.
Je pense que ton ignorance est confortable.
Oui, absolument. C'est possible. Mais racontez-nous la suite, quand même. Donc, il arrive à 800 km de la fameuse
embouchure. Alors, écoute, faut que je prenne mes notes. Parce que là, je sens que je me suis mis dans un terrain un peu fragile. Alors, quand il repart, il repart avec une escadre, 24 bateaux, vers les Antilles. L'objectif, c'est de créer une colonie à l'embouchure du Mississippi. Il y a quatre bateaux qui le concernent, lui. Deux fournis par la monarchie, deux qu'il va financer avec l'argent qu'on lui a prêté, parce que lui, il n'en a pas. Et là, il y a un capitaine là, avec lequel il se dispute constamment, mais ils sont 300 à bord des bateaux. Et là, ils passent tout droit.
On s'en va fonder une colonie.
On s'en va fonder une colonie. Et on est en 84. L'année suivante, Beaujeu, qui était le capitaine, il dit, moi, j'en ai assez vu, je rentre. Puis il dit, ceux qui en ont assez vu comme moi peuvent rentrer avec moi. Donc, il va diviser à peu près en deux les gens qui étaient venus pour fonder une colonie. Il va en rester à peu près 180 peut-être avec la salle. On est en 85.
Oui, parce qu'on ne trouve pas l'embouchure, on ne trouve pas le lieu.
Non. Vraiment, on ne l'a pas trouvé. Hein? Et alors, donc, pendant 2 ans, on va errer. On va errer dans le Texas.
On cherche.
On construit des forts. On chicane avec les Indiens. C'est vraiment un de ceux qui a réussi à chicaner avec les Indiens, puis point qu'un peu. De temps en temps, deux, trois Français qui disparaissent. Il y en a un qui se fait piquer par un serpent, l'autre qui se fait manger par un alligator, l'autre, il traîne de la patte, donc on le laisse dans la forêt. Vraiment, là, ça va mal, ça va mal. Et ça se termine par, aux conclusions, là, ça se termine par l'assassinat de La Salle.
Un assassinat par des gens qui trouvaient qu'on allait nulle part.
Comme m'avait dit que vous vouliez que je parle davantage de la fin de La Salle, le Shannon Group, par exemple, arrête d'en parler après l'épisode de 82. Ça ne sert à rien de continuer. De toute façon, il meurt assassiné. Je prends Raymond Italien l'arrête aussi. Les historiens francophones, en général, ils arrêtent après l'expédition de 82, puis ils disent qu'il se fait assassiner en 87. Mmh. Mais là, comme vous m'avez provoqué, je me suis mis là-dedans. Mais là, vraiment, honnêtement, je n'ai pas le temps.
Non.
Mais donc, il est assassiné. Mais la veille de son assassinat à lui, on assassine son neveu, on assassine son domestique, on assassine un Indien Chouanon qui est un fidèle pour lui. Et un de ceux... Alors là, lui, quand il voit tout ce qui s'est passé, là, il est tiré à bout portant par un type, là, je sais maintenant que c'est un de ses créanciers, qui a vu mourir son frère pendant l'expédition. Alors, on commence à s'entretuer. Et puis, alors, on apprend tout ça par un certain nombre de sources, mais entre autres, un ami Joutel qui était là, il a eu la peur de sa vie. Là, les gens disent non, on a assez tué, là, on n'en tue plus. Et là, Joutel va rentrer, il va écrire le récit de tout ça. Et je l'ai découvert grâce à toi, d'ailleurs. Ça a été publié en 1713. Et là, je me suis dit, il faut que je réédite ça, mais malheureusement, ça a été réédité depuis, mais il reste que... Là, je l'ai lu à peu près au complet. J'ai trouvé ça fascinant, mais on n'en parle jamais dans nos livres d'histoire, mais ceux que les Américains, maintenant, en parlent. Et là, il y a une documentation inouïe aux États-Unis, parce qu'on a découvert récemment un des bateaux de la salle, le Bell. Et là, on a découvert vraiment, c'est toute une mise en scène pour reconstituer ce qu'il y avait à bord de ce bateau-là et tout. Et les Américains, vraiment, d'abord, les Américains, ils font encore d'histoire là-bas. Hein? Et les spécialistes qui font du terrain, ils font de l'histoire événementielle, ils s'intéressent au monde. Ici, c'est moins vrai, là. Alors là-bas, c'est encore vrai. Ils sont incroyables. Alors là, tu as toute une armée d'historiens, de spécialistes qui tournent autour. Et comme je suis pas de bonne volonté, moi, alors, je vais te dire que je me suis dit, pourquoi ils ont tant d'admiration pour la salle? Parce qu'ils admirent la salle, hein? Découvreurs, mais oui, c'est parce que la salle, il a échoué, finalement. Ça les arrange.
Ah, je comprends, là, le chat sort du sac. OK, c'est pour ça que vous l'admirez. C'est pour ça que vous ne l'aimez pas. Mais enfin, moi, je trouve que c'est un destin tragique parce que je le revois tout dans sa gloire de 1684. Puis là, il n'est même pas capable
comme
de trouver
l'enjeu. Comme je te connais, Éric Bédard, t'as arrêté dans l'expédition.
Je ne sais pas.
Je pense que tu aurais fait un mauvais parti à la salle.
Je ne sais pas. C'est possible, après 3 ans, de chercher l'embouchure, là. Mais toujours est-il que ce n'est pas lui qui va donc fonder la Louisiane,
non.
Mais bien Pierre-Lemoyne d'Hubertville.
Alors, lui, les Anglais ne l'aiment pas.
Oui, ça, on peut le comprendre.
Bon, voilà. On a tout dit.
Expliquer.
Lui, il va découvrir l'embouchure du Mississippi. Il va découvrir l'embouchure
du Mississippi. Donc, il va justement refaire le voyage, mais il va trouver l'embouchure.
Oui, mais je dois admettre qu'il y a eu un peu de chance. Parce que là, il longe la côte, puis à un moment donné, il veut se mettre à l'abri. Puis en voulant se mettre à l'abri, là, il voit arriver un filet d'eau, d'eau qui n'est pas salée. Et là, il remonte ce filet-là, puis là, il va remonter le Mississippi. Alors, il va fonder avec son frère la ville de la Nouvelle-Orléans. Et la ville de Nouvelle-Orléans, parce que derrière ces expéditions-là, le duc d'Orléans, Philippe duc d'Orléans, qui encourage tout ça. Et là on va quand même expliquer autre chose. Tu me disais tout à l'heure, on est allé vers le sud alors qu'on aurait dû aller vers l'ouest. Mais une fois qu'on est allé vers le sud, là, on a vu, en allant vers le sud par le Mississippi, les affluents du côté ouest. Et là, ça, on ne l'a pas oublié. Donc, en bas, il y a la rivière Rouge. Donc, il y a quelqu'un qui va dire, il faut remonter la rivière Rouge. L'autre, l'Arkansas, il faut remonter l'Arkansas. Mais le cours d'eau le plus important, c'est le Missouri. Et donc là, on mise sur le Missouri. Et le Missouri, on pense que c'est lui qui va nous mener vraiment à la mer de l'Ouest ou plus loin.
Exactement. C'est-à-dire qu'on fait des expéditions vers le nord, radition des Groseilliers. On va vers le sud, pensant que peut-être ça nous mènerait à l'Ouest. Sauf que le chemin vers l'Ouest, on veut toujours le trouver.
Oui.
Hein, c'est comme une obsession, c'est l'obsession de tous les explorateurs.
Oui.
Même tardivement au 18e siècle, on pense toujours que c'est le 16e siècle, là, la route vers l'Inde ou la Chine, mais jusqu'au 18e siècle. Et là, vous attirez notre attention sur des gens qui sont un peu tombés dans l'oubli, mais qui ont vraiment fait des efforts, des expéditions que vous trouvez admirables. Parlez-nous un peu de ces personnages.
Oui. Puis même, on pourrait aller au-delà du mandat de ce soir, parce que ça continue. Quand j'écris un livre sur Lewis et Clark, par exemple, je me rends compte que les Canadiens n'ont pas arrêté après 1760. Ils n'étaient plus en train de construire l'Amérique française, mais ça les intéressait encore d'aller plus loin. Ils sont de toutes les grandes expéditions. Il n'y a pas de grandes expéditions depuis Mackenzie et de toutes les autres. Il n'y a pas des guides. Parce qu'ils ont réuni le savoir-faire des Indiens. Et ils font le meilleur, ils réunissent le meilleur des deux mondes, de ce que l'Européen peut apporter, de ce que l'Indien peut fournir. Donc, si on revient aux affluents du Mississippi, un des compagnons des Lemoyne, d'Iberville, Bienville et d'Iberville, c'est un nommé Juchereau Saint-Denis. Juchereau Saint-Denis, lui, va remonter la rivière Rouge. Il va aller voir ce qui se passe chez les Espagnols. Et là, il se fait arrêter parce qu'ils n'ont pas nécessairement bienvenu. Mais pendant qu'il n'est pas en captivité, mais sous surveillance, il fait la cour au commandant de la place. Et finalement, il va la marier. Ça se passe pas mal, hein? Il va la ramener en Aquitoche. Mais là, il y a une ouverture vers l'intérieur. Parce que là, on va commencer à aller vérifier. Parce que les Mexicains, ils sont devenus déjà légendaires pour leur richesse et tout, pour les mines qu'ils ont. Donc, on veut aller voir. Il y a eu le castor qui a attiré les gens. Mais là, tout d'un coup, il y a l'argent et l'or qui commencent à distraire un peu. Tu aurais les frères Mallet, dont on ne parle pas dans nos livres.
Oui, mais parlez-nous.
Mais les Américains sont... aiment beaucoup les frères Mallet. Parce que c'est
encore... Qui sont-ils? D'où viennent-ils?
C'est deux frères qui... je ne me rappelle plus où est-ce que... De la région de Montréal, en tout cas. Et donc, les autres, ils vont remonter le Missouri. Et puis là, finalement, ils vont bifurquer. Et ils vont se rendre jusqu'à Santa Fe, jusqu'à Taos. Et là, quand ils reviennent, il en manque deux, parce qu'ils ont découvert le charme des Mexicaines. Donc, il y en a deux qui sont restés là-bas. Et d'ailleurs progressivement, au fur et à mesure que le commerce de fourrure perd de sa popularité, là, on va commencer à regarder du côté de Taos, du côté de Santa Fe, et je vois beaucoup de Canadiens qui se recyclent dans la tequila. Ils partent de la traite des fourrures, puis ils se recyclent dans la tequila.
Bon, ça, vraiment, c'est une découverte de la soirée, là. La tequila canadienne-française,
dès le 18e siècle. Qu'ils l'importent, là.
Ah non?
C'est-à-dire qu'ils vont vivre parmi la tequila.
Ah oui?
Ils deviennent producteurs. Non, c'est sérieux, là. Hein?
Ben, expliquez-nous.
Bien, en fait, il n'y a plus d'avenir pour eux autres, ou pas beaucoup. Là, on est rendu vers du 130, là. Mm-hmm. Il n'y a plus beaucoup dans le domaine de la fourrure. Donc, ils vont toujours vers le sud, davantage vers le sud, et puis ils finissent par faire leur chemin. Et puis là-bas, ben là, ils avaient côtoyé les Indiennes, bien sympathiques. Mais là, ils retrouvent des filles avec la dentelle, les parfums. Ça change un peu, quoi.
Ouais.
Ils s'accrochent.
Ouais.
Ils s'accrochent. Parlez. Alors, mais pour les gens qui s'accrochent, ça en a encore le temps. Il y a le grand des grands, c'est Viennard de Bourmont.
Oui, parlez-nous de lui. Oui, c'est vrai, vous insistez sur lui.
Ah.
Alors, parlez-nous de lui.
Bon, là, je voudrais avoir toute l'heure pour Viennard de Bourmont.
Prenez un bon 5 minutes.
Ah oui, ah oui. C'est une façon pour moi de savoir combien de temps je veux. Alors Viennard de Bourmont, c'est un noble qui a...
Quelle année?
Comment?
Quelle année il naît à peu près?
Je ne sais pas. Il doit être né vers 1660, 1670. Mais il est à Détroit pendant la guerre des Renards. Ça se passe mal. Il est gardien du fort. Il perd des combats. Alors là, il est un peu humilié. Mais en même temps, il fait la connaissance d'une autre fille de Trois-Rivières, Elizabeth Cook, qui est une métisse, en fait. Et elle, c'est une spéciale. Si quelqu'un veut avoir passé un bon moment, là, on lit Madame Montour. Madame Montour, c'est Elizabeth Cook. C'est une femme incroyable qui va avoir d'ailleurs une fille qui va prolonger un peu son parcours à elle. Donc, Viennard Bourmont découvre le charme de Madame Montour. Et là, ils vont disparaître tous les deux pendant un certain temps. Puis, un bon jour, il va se ramasser au Missouri. Parce qu'il y a des Indiens qui sont venus combattre avec les alliés des Français, et parmi lesquels il y a des Missouri. Et les Missouri lui parlent de leur pays. Alors, il dit, je vais vous raccompagner chez vous. Et là, il se ramasse le long du Missouri, et il est instruit, il fait des récits de ce qu'il voit. On est vers 1720, peut-être. Et là, ça sera en France. Et le régent voit ça. Et là, il dit à Charlevoix, le jésuite Charlevoix.
Un des premiers historiens.
Oui, un des premiers historiens. Charlevoix, d'ailleurs, quand il descend le Mississippi puis qu'il arrive à la hauteur du Missouri, il dit « Oh, oh, il faudrait aller explorer de ce côté-là. » Et là, le régent dit à Viennard de Bourmont, « Écoute, il y a les Comanches, je ne sais pas trop, il y a des Indiens là, qui dérangent tout le monde. Pourrais-tu aller les pacifier et en même temps faire un peu d'exploration? » Et là, Viennard de Bourmont va retourner au Mississippi. Ça va être le grand, le nom, il attache son nom à l'histoire du Mississippi. Du Missouri, excusez. Il y a d'ailleurs, on le célèbre là-bas. Il est très connu. Et lui, il ne fait jamais les choses à moitié. Là, il n'y a plus sa Elizabeth Cook, là. Alors là, c'est des princesses indiennes. Et quand tout est fini, il ramène un contingent d'Indiens Missouri et sa princesse à Paris. Et là, c'est la grosse mise en scène. Mais donc, lui a été vraiment un pionnier du Missouri.
Mm-hmm. Et donc, vous insistez sur le rôle que jouait le régent Philippe d'Orléans.
Oui.
Hein, après la mort de Louis XIV,
oui.
qui était un homme de progrès, de
oui,
science.
Oui, oui, oui. Quand on découvre ces personnages-là, on veut savoir un peu plus. Alors, dans le cas de... Je ne savais rien de lui, mais j'ai découvert que c'est un homme tourné vers l'histoire, la géographie et les sciences. Donc, tout ça l'intéressait. Il y a une curiosité. Donc, il encourageait les gens à aller plus loin. Et évidemment, lui aussi entretient le rêve de la mer de l'Ouest. Mais quand il va quitter, d'ailleurs, il va dire au ministre de Maurepas, il dit, moi, je m'en vais, là. Il va mourir, d'ailleurs, pas longtemps après. Mais il dit, il faut que tu continues. Il faut que tu continues à pousser les explorations. Et c'est là que Maurepas va dire à Beauharnois, qui est-ce qui pourrait bien poursuivre ces mouvements d'exploration? Et c'est ce qui nous amène au La Vérendrye.
Bien, justement, parce que vous avez parlé de quelques personnages comme ça qu'on a un peu oubliés, enfin, qui n'ont pas gravé notre mémoire collective, mais La Vérendrye, père et fils... ce ne sont pas tout à fait des explorateurs, je pense, hein, au sens classique. Hein? Ce sont des marchands.
Non, ben, ouais, écoute, c'est une bonne question. Pierre La Vérendrye, le père, c'est le fils d'un officier de Carignan. Il va faire un début de carrière, je pense, en France, dans l'armée. Je pense qu'il va être blessé pendant la guerre de succession d'Espagne. Il revient, il cherche un peu. Les nobles, c'est pas toujours évident. Et là, il y a un de ses frères, un de Varennes, qui est à... Aujourd'hui, c'est... En tout cas, c'est dans le haut du lac supérieur, et qui a un poste là-bas. Alors, il regarde un peu évoluer son frère, puis il dit, peut-être que je pourrais essayer ça, moi aussi. Alors, il s'intéresse soudainement à la traite des fourrures. Et là, il va entreprendre d'ouvrir des postes, d'ouvrir des postes, d'ouvrir des postes. Il y a 13 enfants, dont 4 garçons, qui sont vigoureux. Alors, il les entraîne avec lui. Et là, vraiment, là, vraiment c'est toute une équipe. Hein?
C'est impressionnant.
Ah oui, oui. Et là, c'est étape par étape. On est, puis là, il n'y en a pas un cours d'eau qui ferait le chemin. Là. On ne descend pas le Mississippi. Là, là vraiment, on y va. Là, c'est du saut de mouton. Mm. On crée des postes, on ouvre des postes, puis on fait des ententes, puis on traite avec les Indiens. Et puis, il est avide au gain. Il est âpre même au gain, ce lavéranderie. Tellement que quand il ramène des fourrures, il met aussi dans le paquet des esclaves. Il fait vraiment le commerce des esclaves. Puis il l'a dit, il dit, écoute, on fait des affaires, hein? On fait des affaires. Les Indiens eux-mêmes, d'ailleurs, ils apportent de la fourrure, puis ils apportent des esclaves. Les Indiens eux-mêmes le font, collaborent. Mm-hmm. Mais il reste qu'au total, il y a donc là un mouvement qui s'est créé. Et à Paris, on trouve que là, un poste, un fort, il y aurait peut-être moyen de renouer avec les explorations de Viandard de Bourmont, d'aller un peu vers le sud. Et les mandants sont devenus des Indiens célèbres. On les considère comme étant un peu à mi-chemin entre l'Européen et l'Indien. Ils sont supposés avoir la peau plus pâle. Il y a une légende autour des mandants. Allez donc voir du côté des mandants.
Les mandants?
Les mandants ou les mandanes. Ils sont sur le Haut-Missouri. Mm-hmm. Et donc, les lavéranderies vont donc aller chez les mandanes. Il ne se passe pas grand-chose la première fois. Mais après ça, le père va se dire, on n'a peut-être pas insisté assez. Fait qu'il envoie deux de ses fils chez les mandanes, pour pousser vers toujours la fameuse mer de l'Ouest. Et la mer de l'Ouest, on la montre sur des cartes. Hein? Mm. Pour les gens, elle est réelle. Comme il y a la baie d'Hudson, il y a le golfe du Mexique, il y a le golfe de la Californie, on imagine qu'il y a un golfe aussi à la hauteur de, mettons, du lac supérieur. Donc, ils sont la mer de l'Ouest est représentée. Donc, objectif, ils disent, ça va faire, là, vous avez assez gagné d'argent, ce qui n'est pas vrai, d'ailleurs, parce qu'il faut qu'ils financent toute leur expédition. Mais là, on leur dit, c'est le temps de mettre le paquet pour atteindre la mer de l'Ouest. Et donc, Pierre Lavérandré envoie deux de ses fils qui retournent chez les mandants. Et là, ils partent avec... Là, c'est pas deux, trois explorateurs, là, c'est des centaines d'Indiens qui les accompagnent pour aller rejoindre la mer de l'Ouest.
Et ça est finalement la conclusion de cette expédition?
Les Indiens qui les accompagnent ont peur des ennemis qui sont à l'horizon. Et à un moment donné, ils arrivent dans un village ennemi pour se rendre compte que le village est vide. Là, ils disent, c'est pas possible. Si le village est vide, ils sont quelque part, puis ils sont probablement en train de balayer nos villages à nous autres qu'on a laissés sans défense derrière. Alors, ils paniquent. Ils disent aux deux frères Lavérandré, il faut rentrer. Il y a trop de risques. Il y a trop de risques à continuer, puis il y a trop de risques à laisser nos villages sans défense. Donc, mais on a eu le temps d'apercevoir une chaîne de montagnes, les Rocheuses. Et là, les Lavérandré ont compris que au-delà des chaînes de montagne, on sait comment la nature est faite. Donc, il y a un versant qui va venir à l'autre océan ou à la mer de l'Ouest. Donc, ils sont allés comme ça, en vue des Rocheuses, mais ils ne sont pas rendus aux Rocheuses. Et la grosse question, c'est est-ce qu'on est au Canada ou aux États-Unis? Mm. Parce qu'on est un peu à la hauteur du Missouri. Donc, on est très certainement au sud du 49e. Mm-hmm.
Le dénominateur commun de tous ces explorateurs, est-ce que ce serait justement ce rapport particulier aux Amérindiens? Parce que vraiment, pour franchir le continent, pour explorer, lequel pourrait recevoir la palme de la diplomatie avec les Amérindiens, lequel elle avait peut-être moins de succès de ceux des personnages que vous avez explorés? Quels étaient les ingrédients du succès?
Je ne suis pas capable d'en nommer un. Je pense que c'est un comportement général, à part la salle, évidemment. C'est un comportement général. ils savent faire. Et souvent, ils s'installent dans la communauté indienne. Ce n'est pas seulement des voyous, là, ou de profiter d'une certaine facilité de mœurs chez les Indiens ou les Indiennes. C'est que souvent, ils sont accueillis, comme les Lemoines, par exemple. Ils vont prendre une femme chez les Indiens. Donc, ils font partie de la famille. Et vraiment, c'est une rencontre qui est belle. Et ça ne marche pas tout le temps, mais en général, ça se passe bien. Et si on passe en revue, là, comme Jean-Nicolette, il va avoir une épouse indienne. La plupart d'entre eux vont avoir une épouse indienne.
Mm-hmm. Il y a eu comme un mouvement un peu pour... humaniser ces grands héros de l'histoire canadienne-française un peu plus typique. Hein? On en faisait de grands héros, puis on disait, au fond, ces personnages-là, il y avait beaucoup l'appât du gain. C'est quoi la part de l'appât du gain dans toutes ces expéditions incroyables? Mais il ne faisait pas juste ça pour la gloire de l'Empire ou la gloire de la France ou, ouais, l'appât, ou la science.
Ouais, l'appât du gain, bien, dans le cas de Radisson, c'est certain. Dans le cas de Nicolette, non. Dans le cas de Joliette et Marquette, non. Encore qu'il faut qu'ils financent leur expédition. Donc, ça, c'est certain. Mais je vais prendre le fait que ça continue après. Et après, là, il n'y a plus grand espoir de gain. C'est le défi, c'est la nature. C'est ça qui les motive. C'est pour ça qu'ils vont être avec Lewis et Clark. C'est pour ça qu'ils vont être avec McKenzie. C'est pour ça qu'ils vont être avec Dubon. Même Parkman, qui ne les aime pas, va les utiliser pour faire ses expéditions. Ils ont ça dans le sang. Ce défi-là, de confronter la nature. Et c'est, écoute, quand on refait le voyage, bien assis dans notre fauteuil, puis on monte l'Outaouais avec eux autres, là, tu sais, le voyage...
Vous l'avez fait, hein? Vous me disiez ça,
oui,
vous en avez fait plusieurs.
Ça m'a beaucoup aidé, d'ailleurs, à comprendre. Mm. Par exemple, quand on arrive aux Rocheuses, on est en voiture confortable, 140 km à faire dans les Rocheuses, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Entre le Mississippi et les Rocheuses, on ne connaît pas les États-Unis, hein? Les États-Unis, pour nous autres, c'est New York, Boston, puis Chicago, puis Détroit. Mais quand tu es à l'ouest du Mississippi, c'est le désert. D'ailleurs, les réserves indiennes qui étaient à l'est du Mississippi ont toutes été déplacées, sauf quelques rares exceptions. On dit, les Indiens, OK, vous êtes bien gentils, mais plus loin. Mm. Alors, quand on se retrouve à l'ouest du Mississippi, par exemple, je suis à Dakota du Sud, la capitale, c'est Pierre. Mais Pierre, pourquoi? Ben, peut-être pour Pierre Lavirandrie, parce qu'ils sont arrêtés de Dakota du Sud. Mais quelle est la population de la capitale du Dakota du Sud? Quand je suis allé, c'était 30 000 habitants. On est aux États-Unis. Quand je quitte ces villes-là, puis je rentre là, pour aller aux Rocheuses, je prends des notes pour savoir où je suis rendu, puis les trajets que je fais, parce qu'il n'y a pas d'affiche. Ils nous laissent rouler. On nous autorise à rouler 80 000 à l'heure, parce qu'on est en plein désert. C'est ça aussi, les États-Unis. Mais pour nos Canadiens, là, ça ne les effraie pas. Ils foncent là-dedans, puis ils se retrouvent, puis ils reviennent. C'est ça qui était fascinant aussi. Mm. C'est que, sauf dans l'expédition de La Salle, ils reviennent tous.
C'est là-dessus qu'on va conclure, Denis Baugeois. Merci infiniment. Merci infiniment pour cet entretien.